Géraldine Leroux, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes anthropologue, co-directrice du département d'ethnologie de l'Université de Bretagne Occidentale et commissaire d'exposition. Vous êtes spécialiste des arts aborigènes et océaniens. Depuis plusieurs années, vous documentez la perception culturelle des océans et le recyclage artistique des déchets marins. Vous vous êtes donc engagé en 2020 dans un périple à la voile dans le Pacifique qui a donné l'ouvrage Sea Sisters, un équipage féminin à l'épreuve de la pollution qui a obtenu le prix du livre engagé pour la planète. Vous faites donc une conférence ce soir autour de ce livre. Qu'est-ce qu'une enseignante-chercheuse comme vous est allée faire dans un voilier sur le Pacifique? On l'a dit, vous êtes une anthropologue, on aurait plus pensé vous voir, et c'est probablement un peu cliché, stéréotypé, mais dans une société amazonienne ou de forêt équatoriale
C'est une bonne question. L'anthropologie, en fait, vise à examiner tout ce que l'homme fabrique ou les éléments avec lesquels l'homme a des liens. Donc, dès lors que l'homme, depuis toujours, a fabriqué et monté sur des navires, des anthropologues se sont intéressés à cette forme de mobilité qu'aujourd'hui on appellerait douce. Donc moi, il y a déjà cette question par rapport au développement durable. Et puis, le plastique, il est omniprésent et il touche, puisque c'est un problème global, il touche toutes les sociétés. Donc moi, j'articule à la fois le local et le global par cette recherche.
Les camarades qui étaient avec vous sur votre voilier, vous les avez nommés Sea Sisters. Pourquoi les avoir nommés sœurs de la mer, sœurs de l'océan comme ça? Qu'est-ce que vous avez vécu ensemble de si particulier?
Alors c'est une expression qu'on a beaucoup employée, qui est venue un peu naturellement parce qu'on était en fait entourés de mer. C'est un truisme, mais quand on vit comme ça pendant des jours, pour nous c'était plus de 3 semaines sur l'eau, avec l'eau. Il y a à un moment donné quelque chose qui se réalise avec cet environnement marin, mais également avec celles et ceux qui vivent l'expérience au quotidien. À un moment donné, quand on s'engueule, on ne peut pas quitter le navire, voilà. Et là, pour nous, en fait, on ne s'est pas du tout engueulé. Ça a juste été absolument extraordinaire, et pourtant les conditions étaient dures, parce que ça faisait quelques jours qu'on avait quitté l'île de Pâques, donc qu'on appelle Rapa Nui, que Trump annonçait la fermeture des frontières états-uniennes, et donc par mimétisme, un certain nombre de pays faisaient de même, et donc on a vécu jour après jour tous les pays autour de nous qui fermaient leurs frontières jusqu'à qu'à un moment donné on se dise mais on peut plus faire demi-tour, et est-ce que là où on devait aller, qu'est-ce qui est la Polynésie française, comment on va faire pour pouvoir mettre pied à terre là?
Justement, vous avez fait expérimenter une sorte de confinement avant le confinement presque. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment-là, ces 17 jours avec vos sœurs de l'océan? Quels moyens vous avez utilisés pour vivre, pour vous nourrir, pour au quotidien?
Alors le quotidien sur un bateau, et d'autant plus un bateau transformé en laboratoire de sciences participatives, il est hyper structuré ce quotidien. Toutes les 4 heures, on change de quart, donc il faut à la fois gérer le navire et les manœuvres, donc gréer les voiles, tenir le cap, etc. Il faut aussi tous les 2-3 jours nettoyer, voilà. Alors je dis tous les 2-3 jours parce que c'est par équipe, donc on tournait. Donc ça veut dire que tous les 3 jours, on avait le droit de dormir. Le reste du temps, c'était que des sommeils de 4 heures. Et puis la journée, eh bien, on travaillait. Donc on avait des équipements scientifiques qu'il fallait sortir, mettre en place pour analyser en fait les quantités de plastique dans des volumes d'eau. Et puis on les préanalysait ensuite à l'aide de microscopes, de spectromètres, etc. Et puis sur le navire aussi, c'est des moments de discussion formelle, puisqu'on a fait des conférences. Donc ça, pour moi, enseignant-chercheur, ça a été un grand moment de donner une conférence sur le pont d'un petit bateau, parce qu'il faisait 72 pieds, donc 21 mètres. Mais voilà, beaucoup de choses.
Avant d'embarquer sur votre bateau, on l'a évoqué, vous avez passé un peu de temps à Rapa Nui. Ou au Rapa Nui, pardon, l'île de Pâques. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Pourquoi vous avoir pris du temps avant d'embarquer sur cette île-là?
Alors, c'est une excellente question, puisque 80% de la pollution marine vient de terre, donc, et c'est d'autant plus vrai quand on travaille sur le plastique. Donc, nous, on a quantifié le plastique dans les poubelles, autour des poubelles, aussi sur la plage. On a fait des nettoyages de plage. Et puis, on a mené des entretiens avec des personnes pour comprendre avec eux quel était le problème structurel. Et donc, en fait, Expedition a mené la première étude holistique, c'est-à-dire qu'on a regardé le plastique à la fois à terre et en mer.
Et comment ce genre d'initiative peut-il inciter les gens à changer leur mode de vie, ou en tout cas, quel impact ça a, ce genre d'études, pour modifier nos modes de vie et lutter contre cette pollution-là, cette pollution marine?
Alors, ça fait des années qu'il y a déjà un certain nombre de scientifiques qui mènent des études sur le plastique. très longtemps, ces études sont restées un petit peu dans un entre-soi scientifique, et le grand public avait du mal à se saisir de cette question qui pourtant est essentielle puisqu'elle touche la santé, à la fois la santé environnementale mais aussi la santé humaine. Récemment, une grande annonce a été faite par des scientifiques qui estiment que scientifiquement, il est prouvé qu'on a du plastique dans le sang, dans les selles, dans des organes, etc. Donc, il y a un vrai problème. Et donc, organiser ou participer à une expédition maritime, bah, c'est aussi vivre de l'intérieur cette question-là. C'est comprendre visuellement, sensoriellement, intellectuellement le plastique sous toutes ses formes. Et il y a un moment donné où il y a un déblocage qui se fait et qui fait qu'à l'échelle individuelle, on change un tout petit peu nos comportements. Ensuite, nous, on a aussi travaillé à des échelles plus grandes pour amener justement ce changement structurel, parce que seul, on ne peut pas tout changer. Et donc, il faut qu'il y ait des changements au niveau des entreprises, mais aussi au niveau des politiques publiques.
Vous avez parlé justement de microcosme scientifique, mais je crois que sur le bateau, justement, ce n'était pas vraiment un microcosme scientifique. Vos sœurs de l'océan, elles venaient de plein d'horizons différents. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu et quel impact ça a justement d'avoir énormément d'horizons différents sur le bateau?
Oui, tout à fait. L'idée, c'était vraiment d'amener tout un chacun à se former et à devenir par la suite ambassadrice de cette lutte contre la pollution plastique. Donc, on avait une fille qui était une mannequin grande forme australienne passionnée de baleines, une autre qui était une scientifique, une autre qui était une artiste qui n'avait jamais mis les pieds sur l'eau, une autre qui était une infirmière de 56 ans qui avait été tradeuse dans une vie antérieure. Enfin, voilà, des profils très différents, ça allait de 24 ans jusqu'à 72 ans si on prend la totalité des femmes, parce que là, nous, en fait, c'était un tour du monde sur 2 ans, mais pour permettre à un maximum de femmes de vivre cette aventure, à chaque escale, l'équipage changeait. Et donc, ce sont 300 femmes qui auraient dû participer à l'aventure. J'utilise le conditionnel passé parce qu'en fait, avec la pandémie, les choses ont un petit peu changé. Donc voilà.
Vous, votre spécialité, on a parlé des autres qui sont top modèles, vous êtes anthropologue et vous avez étudié plus particulièrement les arts océaniens, dont le GhostNet par exemple, qui réutilise les plastiques comme les filets de pêche par exemple pour créer des œuvres d'art. Qu'est-ce que cet objet, est-ce que vous pouvez me parler un peu du GhostNet? Qu'est-ce que c'est exactement quand même? Est-ce qu'on peut revenir dessus?
Alors en effet, ce sont des œuvres d'art qui ont été créées principalement à partir de filets de pêche, que ce soit un filet dans sa totalité, donc parfois qui fait plusieurs dizaines de mètres, voire centaines de mètres, ou à partir d'un petit résidu, une fibre, donc un anneau plastique. Et puis, les artistes, en fait, vont détresser le filet pour permettre, en fait, différentes techniques, soit de la vannerie, soit de la couture, mais aussi des techniques empruntées au monde de l'art contemporain. Et donc, ce sont des objets qui sont, pour certains, réaliste, donc on a des représentations animalières, pour d'autres ce sont des représentations abstraites comme on en trouve dans le monde de l'art contemporain. Le message est pluriel, c'est à la fois sensibiliser bien sûr à l'urgence écologique, mais aussi amener à une autre forme de découverte des patrimoines matériels et immatériels.
Et dans cette construction de GhostNet ou dans la fabrication, je crois qu'il y a la place des femmes est assez importante. Vous l'évoquez vous, quand vous l'étudiez, quelle est cette place des femmes en général dans cet art-là?
Dans cet art-là, en effet, il y a un petit peu plus de femmes que d'hommes, parce qu'à l'origine, ils ont fabriqué des petits objets qui relevaient plutôt de la couture, des petites broches, des broches, des choses qu'on met sur soi, des chapeaux. Et donc, les hommes, parfois, se sont sentis un petit peu désintéressés par cette pratique-là. Mais dès lors que le vocabulaire iconographique s'est accru, que des représentations de mammifères marins a commencé à être commandé par des musées, par exemple, bah les hommes, qui sont ceux qui pêchent d'ordinaire ces espèces-là, se sont intéressés à cette pratique. Donc on a une complémentarité, en fait, des pratiques et des rôles.
On va continuer à parler un petit peu des femmes, puisqu'elles sont quand même au cœur de votre conférence ce soir. Vous étiez quand même plusieurs femmes dans un bateau, il n'y avait pas d'hommes, vous étiez ensemble tout le temps. Qu'est-ce que ça a changé de ne pas avoir d'hommes dans ce bateau-là? Est-ce que ça a changé votre quotidien ou pas du tout?
Alors, a priori, j'aurais eu envie de dire non, ça change rien qu'il y ait des hommes ou que des femmes ou un mélange. Mais finalement, d'avoir que des femmes, a amené parfois certaines discussions liées notamment à l'intimité du corps des femmes, à la menstruation par exemple, et aux déchets qui sont produits à certains moments de la vie. Et donc ça, c'est des discussions que peut-être on n'aurait pas eues de la même manière s'il y avait des hommes qui avaient été présents. D'autre part, on a aussi beaucoup discuté de stratégies professionnelles, parce que dans un certain nombre de secteurs, en France comme ailleurs dans le monde, il y a des secteurs qui sont encore réservé principalement aux hommes, et le monde du nautisme est un secteur qui reste à dominante masculine. On l'a vu avec la route du Rhum, bon, on a 7 femmes, et 7 femmes, c'est pas beaucoup quand même, c'est très bien, mais il faut faire mieux. Et dans d'autres pays, c'est bien pire encore. Et ça, ce n'est pas que dans le nautisme, dans les secteurs des mathématiques, de l'ingénierie, des sciences, ce qu'on appelle les STEM, les femmes sont largement sous-représentées. Donc n'être qu'un équipage de femmes a permis de nous montrer qu'on pouvait le faire. Traverser un océan, c'est pas rien. Et puis aussi développer des stratégies corporelles. Comment est-ce qu'on fait pour manœuvrer un bateau ? Eh bien, avec nos forces, nos tailles différentes, on a su le faire parce qu'on a pu discuter entre nous.
On va terminer avec une dernière question. Vous m'avez parlé un peu avant l'interview de votre actualité récente. Vous allez sortir un livre prochainement. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Alors, en effet, c'est un livre qui s'appelle L'art des gosses nets, approche anthropologique et esthétique des filets fantômes, qui sort aux presses du Muséum National d'Histoire Naturelle. Donc, je suis très heureuse de collaborer avec cette grande maison d'édition et puis ce grand musée, institution française. Et donc ça raconte justement, c'est issu en fait d'une dizaine d'années d'enquêtes que j'ai menées auprès de pêcheurs et pêcheuses, auprès d'artistes en Australie, en Océanie, mais aussi dans le monde et notamment en Bretagne où je vis et travaille, et qui retrace justement les différentes formes d'attachement que l'on a au filet de pêche comme outil de travail pour certains, mais aussi comme déchets marins qu'on trouve au quotidien sur nos plages et aussi comme matériaux pour les artistes.
Géraldine Leroux, merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
On vous rappelle que vous faites une conférence ce soir et que vous pouvez retrouver cette conférence en ligne sur l'Erdu pour pouvoir la voir en replay et que bien évidemment vous pourrez acheter le livre qui va sortir prochainement ou encore Six Sisters que vous pouvez retrouver en librairie.